Nous vous présentons dans la série Les Camps Radiophoniques un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Le vieux, pour me punir, il veut me mettre en apprentissage. Tu te rends compte? Du vrai Zola. Je me suis tiré en les traitant de vieux cons. J'ai juste 50 francs sur moi, Nicolas lui dit. Je vois. Tu as mangé ce soir? Non. On s'est engueulé avant de se mettre à table. Viens, on va à la cuisine. Voir ce qui reste. Tiens, assieds-toi à table. Nicolas ouvre le réfrigérateur et trouve du jambon, du fromage et un reste de gratin de pâte. Il dépose tout ça sur la table. Manger, ils se sont couchés dans le lit de Nicolas. J'ai pas d'autre lit, d'autre chambre non plus. Ou si tu veux, on met le matelas par terre. Non, dormons dans le lit. Ceci ne gêne pas Nicolas, car son affection qu'il a pour le jeune dépasse ses désirs. Ils ont bien dormi. Nicolas, en se réveillant, a vu le visage endormi de Frédéric. Cela l'a profondément ému. Le lendemain, en prenant leur petit déjeuner, Nicolas lui dit
« Pour éviter d'avoir des ennuis, il faut régulariser ta situation. Je vais aller voir tes parents. » Frédéric lui demande « Que vas-tu leur dire ?» « Je vais simplement leur dire que tu es chez moi et leur demander la permission que tu viennes vivre ici. Et s'ils disent non, malheureusement, tu seras obligé de retourner chez eux. Tu es mineur, tu comprends. » Une fois que petit déjeuner pris, Nicolas va voir les parents de Frédéric. Ils habitent dans des logements HLM genre 1930 rue de Gerland. C'est un groupe de petits immeubles de 4 à 5 étages avec des petits balcons loggia en forme de demi-cercle, avec au milieu une cour goudronnée avec un ou deux arbres. Certains immeubles, il y a des commerces. Celui des parents de Frédéric, il y a un coiffeur. Il entre dans l'allée de l'immeuble. Sol carrelé à l'entrée et béton nu sur les escaliers. Il regarde les noms aux boîtes aux lettres. Voit que c'est au 13e étage, pas d'ascenseur. Donc, il est obligé de monter à pied. Chaque palier a 2 appartements. Ces appartements ont juste ce qu'il faut. Pas de salle de bain, WC et évier dans la cuisine. Mais malgré le manque de confort moderne, les gens se sentent mieux que dans les HLM neufs. Premièrement, parce que ce sont des petits immeubles, pas de grandes barres. La construction y est plus costaud, les bruits passent moins et au cours des années, les appartements, des immeubles, même les alentours se sont humanisés. Le loyer est modeste, il y a de la place et l'on est près du centre-ville et les transports en commun. Il y a des commerces de proximité, des écoles, des lieux de rencontre qui se vont bien car ils n'ont pas été implantés, imposés. MJC, Stade de Gerland, Vogue, maisons de toutes sortes. La cour sert à jouer au ballon. Au fil des ans, c'est devenu, on peut même dire, un quartier comme les autres. Tout, et puis pour beaucoup de locataires, l'appartement se passe de père en fils, et même de fils en petit-fils, etc. Quelquefois même sans que les HLM ne le sachent ou à s'en charger. Bien sûr, c'est pas toujours rose. Dans les années 60, début 60, il y avait des fois des bagarres avec les jeunes et les gitans qui viennent camper sur une place un peu plus loin ou entre jeunes du quartier des HLM. Mais ça ne dure pas longtemps, car tout le monde connaît tout le monde, et ceci depuis toujours. Il y a même des mariages entre gens des HLM. Donc, c'est dans cette ambiance fraternelle, simple, de jeunes ouvriers que Frédéric a vécu. Lui rêve d'autre chose, d'une vie de luxe, car il se rend compte de la médiocrité, de la simplicité, plutôt où vivent ces gens. La venue dans les foyers de la télévision, avec sa chaîne unique en noir et blanc, a fait entrer dans ces foyers d'autres vies, d'autres désirs, un besoin d'autre chose, un désir de changer de milieu.
La porte s'ouvre. Un homme, chauve, de taille moyenne, en maillot de corps tricoté blanc et pantalon toile grise.
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Monsieur. Thomas ?
Oui, c'est moi.
Je suis Nicolas Scrapp, la personne qui a pris votre fils pour faire un film.
Il n'est pas là.
Je sais. Je peux entrer ? L'homme le fait entrer de mauvaise grâce.
Mince couloir, avec un chauffage au charbon, en face de ses jours, qui fait tout. C'est là qu'on se réunit. Il y a une porte-fenêtre qui donne sur le balcon, une grande table, un buffet, la télé. Il y a des tas de choses qui traînent sur la table, le buffet est bourré de petits objets, de poupées de Vogue, etc. Une femme de taille moyenne, en blouse à fleurs, cheveux frisés blonds, regarde triste. L'homme lui dit
« C'est pour le cinéma !»
La femme répond « Il n'est pas là !» Nicolas leur dit « Je sais, il est venu chez moi et je suis venu vous demander la permission de le garder. » L'homme lui dit
« Vous en faites ce que vous voulez. Je suis malade. Je ne peux pas travailler. Les poumons. »
La mère dit à Nicolas « Qu'est-ce qu'il fait chez vous ?»«
Rien.
Je l'héberge. »
Elle lui dit « Il a raté ses examens à cause du cinéma. »
Nicolas lui répond
« Je suis désolé, mais il va se racheter. »
Le père lui dit
« Comment ? En faisant du cinéma ? On connaît le cinéma, va ? C'est du propre. Regardez bébé, Delon et les autres, ça pense qu'à coucher. »
Nicolas lui dit « C'est pas tout à fait ça. »
La mère lui dit « Vous voulez une tasse de café ?»
Nicolas voit sur la table une cafetière, deux bols et une boîte en sucre en fer.
« Non, merci, j'ai désappris avant de partir. »
Le père lui dit
« Asseyez-vous. »
Le père enlève sur une chaise une pile de linge qui doit être du linge prêt à repasser. Et Nicolas s'assoit pour être poli.
La politesse chez les pauvres, c'est pas la même que celle des riches. Et même quelquefois, c'est le contraire qu'il faut faire.
Le père lui demande
« Comment il va vivre sans rien ? Moi, je ne peux rien lui donner. »
Nicolas lui dit « Je vais l'héberger et l'aider. Je tâcherai à ce qu'il reprenne ses études. »
La mère lui dit « Il n'a rien, rien à lui donner. »
Le père continue
« Il n'a rien. »
Nicolas commence à en avoir assez. Il leur dit « Nous ne demandons rien. »
« Mais vous oubliez, c'est que votre fils a reçu une bonne somme pour son film. »
La mère lui dit « Ça coûte cher un garçon.
L'argent rembourse tout ce qu'on a à payer pour lui. »
Nicolas leur dit « Bien, d'accord, nous ne demandons rien. Acceptez-vous qu'il vienne vivre avec moi. »
Le père ouvre les épaules et lui dit
« Tu me manques, ça coûte rien. »
« Oui. »
« Merci. »
Nicolas se lève.
Le père lui demande
« Vous partez déjà ?»«
Oui, j'ai à travailler. »
La mère le dit
« Ah, le cinéma ?»«
Oui, le cinéma. C'est du travail, et un travail comme un autre.
Et quelquefois, on fait des heures supplémentaires sans être payé. » Quelquefois, ça rapporte rien. Le père lui demande.
Alors pourquoi faites-vous ce métier?
C'est par amour, pour la joie qu'il procure de pouvoir s'exprimer. Au revoir et merci. Et il les quitte.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Et la vie commence avec Frédéric. Nicolas ne lui parle pas tout de suite de reprendre ses études. La vie commence à deux, c'est pas facile de partager sa vie avec un jeune adolescent. Quoique, dans les années 60, début 60, un jeune de 17 ans n'était plus vraiment un gamin comme maintenant. Son adolescence était presque finie. À 18 ans, on pouvait se marier sans être majeur. À 20 ans, on n'était plus adolescent mais un adulte. Donc les gamineries s'arrêtaient au plus tard à 18 ans. Maintenant c'est à 25 ou 27 ans. On est majeur à 18 ans mais l'on reste gamin jusqu'à 27 ans. Peut-être parce qu'avant, on arrêtait l'école pour 90% des jeunes et oui 90% des jeunes à 14 ans. Maintenant certains vont à l'université jusqu'à 27, 30 ans sans savoir ce qu'ils veulent faire. Donc, ce n'est pas facile de vivre avec un jeune de 17 ans. Il n'y a pas beaucoup de différence d'âge entre les deux garçons, mais l'un est entré dans le monde des adultes et l'autre pas encore. Comme l'appartement est petit, ils ont décidé d'être couchés dans la même chambre, pour que le salon et la salle à manger soient impeccables pour les invités. Tous les deux ne travaillent pas. En se levant, Frédéric, la première chose qu'il fait, c'est de mettre à fond la radio dans la chambre, ce qui énerve Nicolas. Il n'aime pas être réveillé dans le vacarme. Puis, c'est à salle de bain, où il reste un temps infini. Laisse les lieux comme il les a mis. La sueur, les gouttes, les serviettes, le savon trempé et avec des poils, la bouteille de shampoing ouvert. Puis c'est le petit déjeuner qu'il prend à la cuisine et qui dure. Jamais il ne nettoie la table ou lave la vaisselle. Ensuite, c'est passer des heures au salon à écouter des disques ou la radio. Le linge sale est mis en boule n'importe où dans la chambre. Il parle très peu et quand il sort, il ne dit pas où il va. Bon, je m'en vais, à tout à l'heure. Et il s'en va.
Un soir, en rentrant, il dit à Nicolas « Je fais une connerie. J'ai emprunté la mobilette d'un copain et je l'ai embugnée contre un poteau. Tu peux me prêter de l'argent pour que je puisse la faire réparer ?» Nicolas soupire et dit « Je ne suis pas de Rothschild. C'est combien ?» Il lui donne une somme. « Fais attention la prochaine fois. » Nicolas est un peu déçu, car il s'attendait à plus d'intimité avec Frédéric et la vie. Il se comporte comme un jeune avec un adulte. Il a dit à Martine qu'il hébergeait Frédéric un soir
au restaurant. Elle lui dit, je ne te comprends pas. Tu quittes tes parents pour avoir ton indépendance et même tu refuses de vivre avec moi et en même temps, tu héberges un inconnu. Je ne te comprends pas. Tu refuses de vivre avec moi et tu vis avec un inconnu. Tu préfères un inconnu. Nicolas lui répond, Frédéric, c'est pas un inconnu. Et puis c'est pour l'aider. Autrement, il serait à la rue et peut-être à faire des bêtises. Tu gardes combien de temps? Le temps que je trouve une solution à ce problème. Elle lui demande. Tu sais, ça risque d'être long. Pendant ce temps, tu ne travailles pas, bien entendu. Notre mariage peut attendre. Si, j'essaye de travailler. Et peut-être qu'il va m'aider à trouver un sujet de scénario. Et puis, t'as qu'à lui dire d'aller dans un foyer ou retourner chez ses parents. Il lui dit, ce ne serait pas très gentil. Et lui alors, il nous empêche de nous voir. Faut pas exagérer, tu es là. Elle hausse ses épaules. Nicolas aime beaucoup Martine, mais il tient aussi à Frédéric. Il s'est pris d'affection pour lui. Et puis, vivre tous les jours ensemble, même avec des difficultés, des énervements, avec le compagnon et qui est bordélique, cela crée des liens. Surtout qu'en plus, ils couchent dans le même lit, même si c'est comme deux frères. Ce qui fait que malgré lui, il n'est pas pressé qu'il s'en aille. Quant à sa prochaine fille, il n'y pense pas. En réalité, il a peur de se lancer, parce que là, tous les yeux vont se braquer sur lui. Une nuit, Nicolas est réveillé par du bruit. Il voit qu'il est seul dans le lit. Le bruit ne vient pas de la chambre. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être Frédéric qui mange un morceau à la cuisine.
Il se lève. Et sort de la chambre. Et voit dans le hall d'entrée Frédéric qui ouvre la porte de la penderie et fait les poches des vestes.
Mais qu'est-ce que tu fais? Frédéric sursaute. Rien. Nicolas va vers lui. Frédéric lui dit, ben oui, quoi, je cherche de l'argent. De l'argent? Dans mes poches? Il hausse ses épaules et lui dit, où veux-tu que je cherche? J'ai pas d'argent. Nicolas lui dit, mais moi non plus, quelques pièces de monnaie. Mais le reste, je paye par chèque comme tout le monde. Et tu as besoin d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous avec une copine et que je n'ai plus un sou. Nicolas soupire et lui dit, bon, ça va, on verra ça demain. Mais je ne veux plus que tu me fasses les poches. Demande. Comme tu veux, mais je croyais que c'était plus simple comme ça. Nicolas lui demande, c'est toi qui as pris les livres? Dans la bibliothèque? Oui, je les ai vendus. Merci, des livres de collection. Je sais, mais je te rembourserai. C'est pas ça qui va me les rendre. Un soir que Nicolas dîne chez le père de Martine, le père dit
« J'ai une villa à Biarritz et je vous la prête pour que vous puissiez y faire un petit séjour. »
« Merci monsieur, mais... » Martine lui dit « Laisse, c'est de bon corps, accepte. Ça te fera du bien une semaine là-bas. »«
Bien, j'accepte. » Martine lui dit
« Nous partons dans 3 jours. »
Une fois rentré chez lui, il le dit à Frédéric qui lui dit « T'as bien fait d'accepter, cela nous fera du bien. »
Le lendemain, il retrouve Martine à la sortie de son université et lui dit
« Je suis ennuyé, mais je ne peux pas accepter. » Et Frédéric,
elle lui dit
« Quoi, Frédéric ?
Je ne peux pas le laisser seul à lui. Dis-lui de retourner chez sa famille. »
Je ne voudrais pas.
Elle lui dit
« Je crois que nous n'en finirons jamais. Eh bien, emmène-le avec toi. »
Le visage de Nicolas s'illumine, ce qui fait mal à Martine, et lui dit « Merci ».
Et ils partent en voiture tous les trois. Martine ne parle pas de tout le voyage. Frédéric, lui, est heureux de voyager. À Biarritz, sa villa se trouve près de la mer. C'est la maison style Napoléon III, toute blanche de 2 étages. Elle est moulée. Il y a des meubles fin du 19e. Le père de Martine a acheté cette villa qui lui sert à rien, parce qu'il voyage beaucoup et sa femme préfère les hôtels. Martine a demandé à son père la villa pour passer une semaine tranquillement avec Nicolas. Il a accepté parce qu'il sait que sa fille ne fera rien d'irréprochable. Donc, ils arrivent en fin d'après-midi à Biarritz.
À peine arrivée, Martine leur montre la villa. Tout est propre et en ordre. Parce qu'une fois par semaine, une femme du pays vient faire le ménage. Chacun a sa chambre au premier. Après avoir fait leur bagage, fait une petite toilette et habillé de propre, ils sont allés acheter pour le repas. Martine l'a préparé. Après le repas, ils sont allés au salon. Martine et Nicolas se sont assis sur le canapé et Frédéric en face d'eux sur un fauteuil. Martine se serre contre Nicolas et lui prend la main. Frédéric s'ennuie entre eux deux et est toujours près de Nicolas. Ils se promènent la main dans la main et lui chuchotent des choses. Un après-midi, Frédéric leur dit « Je sors. » Et ils l'ont plus revu de toute la soirée. Ils n'ont pas osé lui demander ce qu'il a fait. Désormais, Frédéric part tous les matins et les laisse. Cela arrange Martine. Mais Nicolas a un petit pincement au corps. Il se dit qu'il ne faut pas le faire voir pour ne pas froisser Martine. Pendant qu'ils sont seuls, ils vont se promener. Elle lui raconte comment elles voient leur vie ensemble. Ils prennent leur repas tous les deux. La soirée, ils écoutent de la musique. Et lorsque Frédéric revient ou réapparaît, Nicolas a l'impression que c'est le retour d'un jeune dieu après une journée de bataille. La porte du salon s'ouvre. Les jambes légèrement écartées, le regard lumineux, le sourire aux lèvres, les cheveux légèrement ébouriffés, en pantalon et chemise blanche. « Salut, je meurs de faim. » Martine se lève, lui dit « Je vais te servir. » Elle, comme une servante, elle mène le jeune dieu à la cuisine manger. Nicolas a l'impression que tous les jours, il attend cet instant, le retour du Dieu. Il se dit, chose étrange, Martine trouve tout naturel de servir Frédéric. Puis, ils terminent la soirée tous les trois au salon. Frédéric ne dit jamais ce qu'il a fait de sa journée. Ils traînent la soirée en jouant aux cartes. Un soir, Frédéric demande à Nicolas avant d'entrer dans sa chambre, « Tu peux me donner de l'argent ?»« Oui, bien sûr. » 200 francs. tous les deux jours, Frédéric lui donne de l'argent. Martine me voit en se promenant sur la plage et lui dit « Pourquoi est-ce que tu lui donnes de l'argent comme ça ?»«
Il n'en a pas, il faut bien qu'il s'amuse un peu. »
Elle lui dit « Il a été payé pour le film. »
Ses parents qui ont l'argent.
Elle lui dit « Eh bien, il n'a qu'à le leur demander. »
Tu es fâché ?»«
Non, mais tu fais tout ce qu'il te demande. »
Elle lui dit « Je croyais que tu l'aimais bien. »
Elle ne répond pas, parce qu'elle ne sait quoi répondre. Elle est prise par son charme et en même temps, cela l'agace. Elle a écrit à son père pour qu'il puisse rester encore un mois. Il a accepté. Le père a espoir que Nicolas écrive un scénario pour son prochain film. Les jours passent. Pleine nuit, une voiture s'est arrêtée sur une route près d'une maison en contrebas. Un seul trois personnes qui se dirigent vers la maison en passant par les broussailles. Une fois vers la maison, ils y font le tour, brisent une vitre qui est derrière la maison au rez-de-chaussée, élargit le trou. Une personne passe et entre dans la maison. Après avoir regardé avec une lampe électrique, elle dit « C'est la cuisine !» Les deux entrent de la même façon. À part de loup, il sort de la cuisine, couloir qui donne dans les escaliers. Il les monte. Tout à coup, la lumière s'éclaire. Apparaît un homme en robe de chambre bordeaux, cheveux gris, grand, mince. Bousculade dans les escaliers. Trois personnes cherchent à fuir. L'homme leur court après. Arrivé en bas, les trois personnes vont à la cuisine pour sortir de la même façon qu'ils sont entrés. L'homme prend, accroché sur le mur, un fusil et entre dans la cuisine. Il voit les trois jeunes sortir par la fenêtre. Le vieux court vers la fenêtre. Il voit les personnes dehors. De la fenêtre, le vieil homme tire. Une ombre crie et tombe. Elle est blessée à la jambe. Les deux autres le prennent et le ramènent à la voiture. Ils entrent dans la voiture. Le blessé est mis derrière et démarre en vitesse. La voiture file à vive allure. Le conducteur était tellement excité et énervé qu'il a raté un virage et a fait dégringoler la voiture dans un fossé qui a cogné un arbre, vitre brisée, devant la voiture défoncée. Les deux passagers de devant ne bougent plus, les yeux fixes, horrifiés, le visage en sang, les bris de verre sur eux. Celui qui est derrière n'a rien eu, que la blessure par balle. Il secoue les autres et voit qu'ils sont morts. Il y a la fumée qui sort du capot de la voiture. Merde, elle va peut-être exploser. Vite, il met la main sur la poignée de la portière qui n'a pas été endommagée. Elle s'ouvre. Malgré la blessure à la jambe, il sort de la voiture. À pied, sur le sol qui n'est pas trop en pente, avec pas trop de difficultés, il pourra retrouver la route un peu plus haut. Et en marchant en quatre pattes. C'est ce qu'il fait. Dans son effort, il ne sent pas la blessure. Il a tout juste le temps d'arriver sur la route. Que la voiture a explosé. Il a chaud, essoufflé. Fait quelques pas et s'arrête. S'assoit sur le rebord de la route pour souffler un peu. Après, il reprend sa route en boitant de la jambe gauche. La porte du salon s'est ouverte et Nicolas et Martine voient apparaître Frédéric, le visage en sueur, noir, les cheveux en broussaille, les vêtements déchirés et la jambe gauche, une tache rouge.
Ils accourent à lui.
Nicolas lui demande « Que t'est-il arrivé ?» Frédéric lui dit « J'ai reçu une balle dans la jambe. » Nicolas lui dit « Vite Martine, téléphone au médecin !» Frédéric lui dit « Non, mieux pas que ça se chasse. Et puis, la balle n'a fait que m'effleurer. Elle n'est pas rentrée dans la jambe. » Martine demande « Que s'est-il passé ?»«
J'ai mal. »
Nicolas dit « Allons le mener dans sa chambre et soignons-le. »
Ils le prennent chacun d'un côté et le mènent à la chambre.
Pendant qu'elle est absente, Nicolas demande « Que s'est-il passé ?»«
J'ai fait une connerie.
Avec des copains, on voulait passer la soirée dans une villa libre. Pour déconner un peu, quoi. Bouffer ce qu'il y avait, boire, rire, quoi. Et puis, on est entré dans la villa, mais le proprio était là. Il nous a poursuivis, m'a tiré dessus. On a paniqué. On a foncé en voiture et puis la voiture a raté un virage. Mes deux copains sont morts sur le coup. Je suis seul rescapé. Nicolas lui dit, tu te rends compte de ce que tu as fait? Quel merdier! Si la police le sait et les journalistes, ta carrière est foutue. Demande Martine qui revient de revenir avec tout ce qu'il faut pour faire un pansement. Nicolas lui dit « Rien. Il va falloir partir le plus vite possible. Pourquoi ? Rien, il a fait une bêtise. » Elle soupire. Ne dit rien parce qu'elle sait qu'il ne dira rien. Et elle fait le pansement. Une heure plus tard, Nicolas et Martine, avant de rentrer dans leur chambre, Martine lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce jeune qui ne fait que des bêtises et insupportable ?»
Colin lui dit. Il ne faut pas lui en vouloir, il est jeune. Et puis, c'est moi qui prends toutes les responsabilités, quoi qu'il arrive. Il hausse les épaules et lui dit. Je ne vois pas ce que tu lui trouves. C'est un gentil garçon. Il est jeune et c'est normal qu'il fasse des bêtises. Elle lui demande. Quelle bêtise il a fait au juste? Il lui répond. Une grosse, qui nous force à partir le plus vite possible. Elle lui dit. Je m'en souviendrai de ce séjour. Il en prend dans ses bras et lui dit. Il n'a pas été aussi mauvais que ça. Nous avons eu de bons moments seuls. Elle soupire et lui dit. Et que vas-tu faire à Lyon? Je ne sais pas, je verrai. Il va continuer à vivre avec toi. Je l'aime bien, c'est mon meilleur ami. Elle lui dit. Je vois, partons. Et le lendemain, après avoir fait les bagages, ils sont partis. Arrivé à Lyon, elle est retournée chez son père. Il ne lui a pas parlé de l'histoire de Frédéric. Elle lui a seulement dit qu'il était rentré plus tôt parce que Nicolas pense pouvoir travailler plus facilement sur un sujet de film. Le père est content qu'il soit rentré pour travailler. Nicolas et Frédéric ont repris leur vie en commun, comme d'habitude. Un soir, qu'ils sont tous les deux au salon à regarder la télévision, Frédéric est allongé sur le ventre à terre, près du téléviseur. Nicolas est assis à terre, à côté de lui. Il est assis tout près de lui. Et malgré lui, il sent sa chaleur, son odeur, l'odeur de ce corps de 17 ans. Cela le trouble. Il s'imagine ce qui pourrait se passer.
Qu'il veut qu'il en soit ainsi, aujourd'hui,
mettre la main sur l'épaule de Frédéric qui monte jusqu'aux cheveux et le caresser en lui donnant des baisers dans le corps, dans le cou. Frédéric se place contre lui. Nicolas se couche sur lui, met sa tête dans ses cheveux et enfonce son corps sur lui, sur celui de Frédéric. Il sent ses fesses fermes et douces. Cela le fait bander. Il bande pour de vrai, mais n'ose rien faire. Lorsqu'il est avec lui, il est tout juste capable de lui prendre la main. Frédéric se retourne. Se retourne vers lui, il le voit, il le regarde et demande. Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas lui répond. Tu es beau. Frédéric sourit et regarde la télévision.
Si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre, tout en trinquant aux alentours.
C'était le monochoque de Moscou.
Oui, ça rend mélancolique Kikola et a envie de mourir. Mourir. Nicolas, un après-midi, va voir son père chez lui. Il l'a convoqué. Son père le reçoit à son bureau.
Assieds-toi.
Nicolas s'est assis. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 9e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVS.